Bonjour, le 38e Forum Visage, forum du film documentaire d'intervention sociale, avait pour thème « Travailler, gagner et faire sa vie ». Compte tenu du contexte sanitaire et de l'obligation de fermeture du cinéma Saint-Paul, les 7 films sélectionnés ont été diffusés via la plateforme Cube. Overseas faisait partie de cette sélection. Ce film documentaire de Sung Ah-Yoon aborde le sujet de l'exploitation de femmes philippines. Interview réalisée par téléphone avec la complicité de Marie-Françoise Loiseau, membre de la commission Visionnage. Oh.
Comment vous projetiez dans l'avenir quand vous étiez plus jeune ?
Jeune à quel âge ? À peu près.
L'âge de vos protagonistes du documentaire ?
Oh, les protagonistes, ça dépend des âges.
Je suis incapable de leur donner un âge.
Bah, ça dépend en fait. Ils ont, je sais pas, entre 23... Enfin, j'avoue que je connais pas vraiment leur âge exactement, mais disons 23 à 40, quoi.
On a l'impression que ce sont des adultes.
Oui, elles sont adultes, oui, oui. D'ailleurs, l'âge minimum requis pour partir, de toute façon, c'est la majorité. Elles n'ont pas le droit de partir si elles n'ont pas la majorité.
C'était juste pour vous mettre en situation. Vous, jeune, quand vous vous projetiez dans l'avenir, vous imaginiez vidéaste, réalisatrice, architecte, tenir un restaurant.
Alors oui, pas du tout en fait. Ouais, moi, j'avais projeté d'être orthodontiste.
Orthophoniste ?
Orthodontiste, ce qui n'a absolument rien à voir. Donc effectivement, il y a un grand vide là entre ce que je fais maintenant et l'orthodontie. Mais par contre, le fait de... Enfin, il y a quelque chose, je pense, qui m'a marqué dans les impressions d'image et de son, notamment dans ma première arrivée en France, parce que je suis née en Corée et j'ai grandi là-bas. Et je suis arrivée à peu près à l'âge de 9 ans et j'ai directement débarqué en Normandie. En hiver, et j'ai eu une impression, enfin déjà je ne comprenais pas la langue, donc une impression d'être loin et de voir des images et des sons qui m'étaient complètement, vraiment pas du tout familiers, et de ressentir les choses beaucoup plus que de les exprimer verbalement. Et je crois qu'il y a quelque chose qui m'a impressionnée dans tous les sens du terme.
Le beuglement des vaches.
Alors là, c'était plutôt les galets, le vent, la mer... L'hiver, avec beaucoup de vent, et c'est plutôt ça. Ce que je n'avais pas connu en Corée, puisque j'habitais à Séoul, dans une grande ville. Et au niveau du paysage, des goûts, de tout, en fait. Il y avait une espèce de décalage énorme, et je crois que ça m'a énormément marqué, en fait, par rapport au cinéma, parce que je pense que le cinéma aussi raconte avec des images et des sons, ce sont des corps, des positions, des sensations, en fait, des images chargées d'émotions et de sens. Je crois qu'on essaye d'offrir aux spectateurs et je me suis rendu compte que ça avait marqué à un moment ma vision du monde, ma façon de regarder le monde. J'avais une sorte de distance aussi par rapport aux choses parce que j'étais plus familière de ce que je voyais. Donc, il y avait une espèce de distance qui était très, très forte, en fait, en termes d'émotions et de sensations.
Le cinéma, ça n'a pas été votre premier mode d'expression. Vous avez commencé par créer des installations vidéo, c'est ça ?
Oui, j'ai même fait un peu de théorie du théâtre aussi avant ça, parce que j'étais au début assez férue de théâtre. Et puis, peu à peu, oui, j'ai été donc aux Beaux-Arts, et où là, je faisais plutôt oui, de la vidéo d'art, mais le cinéma m'intéressait. Et c'est ensuite que je suis allée vers le cinéma, effectivement.
Vous avez suivi deux cursus. Un cursus en art plastique, c'était à Paris, et un cursus plus orienté cinéma à Bruxelles.
Oui, une école de cinéma à Bruxelles.
On est mieux formé en Belgique.
Aussi circonstanciel. J'avais tenté le concours de la FEMIS et j'étais arrivée à deux doigts et personne ne s'est désisté, donc je n'ai pas pu y entrer. Et il se trouve que le concours de l'INSAS, ici l'école de cinéma, avait lieu quelques mois après. Je connaissais quelqu'un qui y était, et voilà, et comme j'ai été reçue, je suis allée en Belgique.
Et la France a perdu un talent.
C'est gentil.
Votre premier film, c'était en 2012.
Oui, oui. Mon premier long-métrage documentaire,
oui.
C'est bien ça.
Ça tournait autour des mêmes questions.
C'est un long-métrage documentaire qui s'appelle Full of Missing Links. Donc plein de liens manquants, disons, de trous dans l'histoire, en fait. C'est un film que j'ai réalisé... Donc en 2012, je suis partie en Corée du Sud. Le film raconte la recherche de mon père que je n'avais pas vu depuis 25 ans. 20 ans, 25 ans. Et en fait, le film raconte le processus de recherche jusqu'à ce que je le retrouve. Et c'est un film qui n'a pas un lien direct avec Overseas. Mais toutefois, quand j'étais en train de terminer Overseas en montage, je me suis rendu compte un peu des liens qu'il pouvait y avoir, notamment la première fois que j'avais lu ce livre de la chercheuse philippine qui s'appelle Asuncion Fresnoza Flo, qui est un peu le point de départ de ce film, Mères migrantes sans frontières, puisqu'elle étudiait la situation des mères, des femmes philippines travailleuses domestiques à Paris. Et tout le rapport à distance qu'elles entretiennent avec leurs enfants restés au loin et qui m'avait bouleversée. Et c'est seulement, en fait, quand je finissais le film que j'ai fait un lien direct entre l'exil, le déchirement affectif, filial que j'ai pu vivre. J'ai fait le lien, mais très tard. Et je me suis dit que c'était assez étrange que j'ai fait le lien si tard, en fait, parce que pour beaucoup autour de moi, c'était comme une évidence.
Oui, moi, le lien, il me paraît un peu évident. D'un côté, c'est l'enfant qui s'exile, et là, c'est le parent.
Tout à fait, oui. Oui, oui. Puis, ça, bon, c'est pas du tout le même contexte et le même cas. Et effectivement, là, c'est la mère qui va partir pour subvenir aux besoins de la famille et qui est loin des enfants et qui est sans papier. Enfin, là, dans le livre de Asuncion, puisque là, dans ce que je décris dans le film, ce sont des contrats légaux et tout est légal. Mais le livre de Asuncion se penchait sur les cas de ces femmes en France. Comme il n'y a pas de convention passée entre les Philippines et la France, c'est la plupart étaient des femmes qui étaient tombées après dans l'inégalité. Donc, ils n'avaient même pas en fait, la possibilité de retourner dans leur pays pour des vacances ou autre pour voir leur famille. Donc, parfois, elles restaient 10-15 ans sans voir leurs enfants, en fait, qui étaient déjà grands, déjà adolescents. Et qui, où elle connaissait aussi beaucoup d'autres travers, les enfants qui a perdu le lien, en fait, avec sa propre mère.
Vous aviez votre sujet en tête, après vous l'avez pensé, vous l'avez écrit, et vous êtes allé faire du repérage pour trouver le centre de formation.
Alors, c'était un processus beaucoup plus long, c'est-à-dire que déjà, quand je faisais mes études à Bruxelles, je voyais régulièrement des travailleuses, des nounous philippines qui étaient dans le tramway, que j'en prenais. Et qui s'occupait des enfants de l'école britannique qui était sur le chemin. Et donc, ça avait fait partie de mon quotidien en tant qu'étudiante. Et puis, plus tard, j'avais voulu écrire un scénario de fiction autour des nounous étrangères qui s'occupent des enfants de familles parisiennes. Et en fait, c'est un livre dont je n'ai pas eu les droits. C'était une adaptation. Et j'ai décidé à ce moment-là d'approfondir mes recherches sur ce sujet-là, parce qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait beaucoup dans cette migration typiquement féminine. Et je me suis intéressée du coup à différentes communautés qui viennent en Europe pour s'occuper des enfants et des personnes âgées dans nos sociétés. Et donc je me suis penchée sur le cas des Haïtiennes, des Chinoises, etc. Et puis, c'est comme ça que je suis tombée en fait, sur le livre d'Asuncion Fresnoza Flo, une chercheuse philippine qui d'ailleurs est basée en Belgique. Et c'est là que j'ai appris dans son livre que le gouvernement philippin avait institutionnalisé complètement ce système de migration et que le pays vivait de cette économie. Et donc, j'ai été frappée par ça. Et c'est comme ça que les choses ont commencé. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'aller faire des repérages toute seule aux Philippines. Donc, c'était en 2014, la première fois. Donc, j'ai tout préparé d'ici, un peu en solitaire, parce que je n'avais pas de financement à ce moment-là. Et comme je partais en Corée pour voir ma famille, il y a des low-cost qui vont aux Philippines. Donc, j'ai fait des mini-repérages très courts pour voir un peu de quoi il s'agissait. Et mon oncle avait vécu pendant très longtemps aux Philippines. Donc, ça me paraissait un petit peu familier, je ne sais pas comment dire. Et j'ai visité des centres, j'ai été voir, et c'est comme ça que le projet est né.
Et vous avez visité plusieurs centres, et si oui, pourquoi avez-vous choisi celui-là ?
En fait, j'ai visité en tout, je pense, 15 à 20 centres, mais ça s'est étalé sur plusieurs années, parce que je suis partie plusieurs fois. Et ce centre-là, c'est le dernier que j'avais visité. Mais c'est vrai que dans le film, on a le sentiment que tout se passe dans un seul centre unique, et que c'est la seule formation qu'elles ont, mais en fait, dans la réalité, c'est un parcours beaucoup plus long.
Il y a donc l'agence de recrutement qui met en lien les femmes avec l'employeur à l'étranger. Mais après, il y a toute une formation aussi. Il y a des différents types de séminaires. Il y a des séminaires de préparation à la culture du pays de destination. d'orientation. Il y a des cours de langue aussi, des séminaires qui préparent au départ. Enfin, il y a beaucoup de démarches aussi administratives entre. Et ça dure vraiment. Et là, la formation, effectivement, c'est la plus longue, puisqu'elle dure 216 heures. Mais c'est pas la seule. Et donc, moi, ce que j'avais fait pendant les repérages, c'est que je tenais à vraiment suivre tout le parcours et aussi de visiter beaucoup de centres pour que je puisse comprendre en fait ce qui était commun à tous ces centres et ce qui ne l'était pas et essayer de comprendre mieux les choses de l'intérieur. Mais le centre de formation qu'on voit dans le film, en tout cas, c'est le dernier que j'ai visité.
Et on a l'impression que ça a été tourné au moment de la mousson.
Oui, exactement, c'était pendant juillet-août.
Et c'était volontaire?
Alors, c'était volontaire, enfin, c'était, comment dire, bon, c'était lié à des calendriers de production aussi, mais c'était en tout cas une volonté d'utiliser la pluie, la présence de la pluie, des inondations, pour aussi exprimer cette espèce de lieu dans lequel on est presque, disons, déjà à l'étranger, on les met en condition. Avec l'eau, la présence de l'eau et les inondations, donc comme j'imagine, vous savez, les plans dont je fais référence, parce que la rue entière devant le centre est inondée, donc on a ces plans avec l'eau à la place en fait de la rue et l'impression qu'elles sont déjà isolées en fait, comme elles le seront à l'étranger. Et c'était une volonté effectivement que le motif de l'eau soit présent dans le film.
Oui, une des grandes destinations, c'est le Moyen-Orient, et il manque beaucoup d'eau. Entre le désert et puis les rues inondées, ça fait le grand écart.
Oui, il manque beaucoup d'eau et beaucoup de jours de congé aussi, puisqu'elles n'ont aucun jour de congé en Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, Dubaï, enfin voilà tout ça.
Vous vous êtes intéressé à des candidates à l'exil qui vont signer un contrat avec des employeurs du côté de Singapour, le Moyen-Orient. On apprend qu'il y a des pays qui sont autorisés et d'autres qui ne le sont pas, mais là je viens de comprendre pourquoi. C'est ceux qui ont signé des conventions d'État à État, je suppose que c'est ça.
Dans le film, il parle de pays qui ont été, comment dire, suspendus, parce qu'en fait, quand il y a des problèmes diplomatiques entre les pays ou qu'il y a un incident, je veux dire, comme l'exemple évoqué dans le film de cette femme au Koweït qui a été retrouvée découpée dans un congélateur, en fait, parfois le gouvernement suspend la migration des femmes vers ces pays-là. Et donc, le pays est banni pendant un certain temps. Bon, après, ça reprend souvent, donc. Voilà, ça c'est une des raisons pour lesquelles, pour certains pays, elles ne peuvent pas partir.
Ces femmes, ce qui les motive, c'est qu'elles n'ont pas de travail chez elles, que parfois la belle famille est très pesante, on leur dit qu'elles sont inutiles. Donc c'est ça qui est la motivation de départ, et puis aussi pour apporter quelques ressources à la famille.
Le film, si vous voulez, c'est vrai qu'il ne creuse pas à fond cette question-là. Après, c'est vrai qu'il y a une diversité de profils des femmes. Donc, il y a. Ça peut aller de voilà, la femme qui vit à la campagne, de la culture de la terre, je sais pas, son père meurt, il n'y a plus personne pour nourrir la famille, puis elle est l'aînée, donc elle se retrouve à devoir partir pour nourrir toute sa famille, et qui est dans une situation économique voilà, assez désastreuse. Et puis, ça peut aller aussi de la classe moyenne ou la classe moyenne supérieure aussi, de situation familiale. Avec, par exemple, dans le film, il y a une femme, par exemple, elle travaille dans une agence immobilière. Son mari est architecte, il travaille. Ils ont des enfants et malgré tout, elle doit quand même partir à l'étranger, faire ce métier-là, pouvoir envoyer les enfants dans des bonnes écoles, qui sont des écoles privées en général, et pour voilà, espérer une ascension sociale, parce qu'elle ne se fait pas du tout aider par sa famille. Et puis ça peut aller aussi des femmes qui vont avoir envie de partir pour des. Bon, c'est moins en quantité, mais. Qui ont une entreprise, par exemple, et puis ils veulent moderniser l'entreprise, ont besoin d'un petit budget, et alors elles décident de partir à l'étranger pour ça. Après, dans le film, il y en a beaucoup qui sont dans une situation économique assez difficile. Mais il y a une fourchette, en tout cas, de situation qui est variable.
Elles partent pour un contrat de 2 ans, renouvelable.
C'est ça. Donc, c'est 2 ans minimum, et puis après, soit c'est renouvelé, elles ne reviennent pas forcément au pays. C'est renouvelé soit par le même employeur, soit par un employeur différent, et parfois elle peut même passer d'un employeur à un autre, mais de pays différents.
Vous avez connu les centres de formation, Marie-Françoise?
Oui, j'ai été formatrice dans une école d'infirmières, puis ensuite dans une école d'aide-soignante.
jusqu'à très récemment, où j'ai vu beaucoup de femmes émigrées postuler sur les métiers du care, surtout des Africaines et des femmes du Maghreb. Voilà, c'est pour ça aussi que le sujet m'a intéressée et que la migration féminine m'intéresse tout particulièrement.
Et vous avez un avis sur cette formation, la façon dont elle se déroule et aussi sur la préparation des candidates?
C'est-à-dire que j'ai été très surprise qu'on puisse envisager des écoles qui préparent à la migration et des écoles de travail domestique. C'est comme si on revenait en France il y a 40 ans où il y avait des écoles ménagères et qu'on se disait que cette population de femmes allait migrer. Parce qu'on a l'impression quand même que ce sont des femmes très éduquées quand même et qui partent pour un projet, comme vous le dites, qui est de nourrir leur famille, de pouvoir rendre accessibles des projets familiaux ou professionnels possibles. On va de surprise en surprise dans votre film, et justement, c'est ce qui est intéressant, parce que c'est peut-être le fait que la migration soit instituée aux Philippines qui rend la chose très surprenante. C'est comme si, par exemple, en Afrique, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, on préparait, ou au Sénégal, on préparait les candidats à la migration dans des écoles comme ça. Je trouvais ça très intéressant comme approche.
C'est intéressant ce que vous dites. En fait, c'est aussi ce qui m'avait frappé, le fait que tout soit si organisé et que l'État vive de cette main-d'œuvre bon marché qui est déployée partout dans le monde, et que sans cette main-d'œuvre bon marché, et qui est une main-d'œuvre peu chère, extrêmement flexible. Vous voyez, quand une femme à Hong Kong emploie une nounou pour ses enfants, sa nounou, elle ne va jamais s'absenter parce que ses propres enfants sont malades, par exemple. Et on se retrouve avec ce genre de configuration. Et c'est ça qui m'avait aussi frappée, donc je comprends tout à fait votre point de vue.
Ce qui est intéressant aussi dans votre approche, c'est que par rapport à ce qu'on connaît de la migration depuis quelques décennies dans nos pays occidentaux, on a connu dans les années 60 des hommes qui venaient de différents pays en tant que main-d'œuvre. On doit la modernisation des villes à des hommes qui ont construit, etc. Et là, maintenant, on voit les femmes arriver dans les pays occidentaux autour de tous les métiers du care, que ça soit justement auxiliaire de vie sociale, aide-soignante, etc. Et c'est elles qui sont presque les plus sollicitées à la migration. Et ça, vous le montrez bien. Je le vois bien aussi en dehors d'une autre expérience professionnelle. J'ai été bénévole à Médecins du Monde sur la mission prostitution. On a vu sur des villes comme Nantes arriver dans les années début 2000 toute une prostitution africaine, polonaise, etc., dans nos villes. Et puis, on voit comment elle passe de la prostitution à des métiers d'aide, femmes de ménage, et puis ensuite à quelque chose comme aide-soignante, etc. C'est des femmes qui ont des parcours bouleversants. Il y a plein d'histoires de vie qui nous émeuvent énormément. Et ça, dans votre film, on le ressent, c'est à fleur d'image, de ces séparations, de ces déchirements qu'elles vont avoir pour arriver à faire vivre leur famille, comme si elles étaient les chefs de famille, alors qu'il y a 40 ans, c'était les hommes qui étaient chefs de famille, la mère restait dans son pays, etc. Et les choses s'inversent.
Je ne sais pas si les choses s'inversent. Je ne sais pas si vous savez qu'à l'heure actuelle, on construit des stades de foot au Qatar.
Aussi.
Tout à fait.
Et de plus en plus de femmes, quand même.
Je vais revenir sur la préparation des candidates. Donc, c'est une préparation, comme le souligne Marie-Françoise, qui est faite donc non pas au pays de destination, mais qui est faite donc par le pays d'origine. Bon, préparation classique. Mais c'est étonnant, il y a tout un conditionnement psychologique pour préparer les candidates à des situations qui sont terribles.
Vous faites bien de le dire. Le centre de formation dans lequel j'ai filmé, c'est un centre accrédité par l'État, donc qui doivent répondre à des normes, et notamment tout le programme qui est enseigné et préparée dans l'administration voilà, qui gère ça. Il y a une partie, donc, comme vous dites, pratique. Donc, comment faire un lit, mettre la table de différentes manières différentes, à la russe, la façon arabe, française. Enfin, il peut y avoir beaucoup de variantes. Et puis, cuisiner, nettoyer, tout ce qui concerne le ménage. Mais aussi s'occuper des enfants, mais aussi d'une personnalité, aussi des formations de secouristes. Voilà. Donc, il y a une formation très complète, même s'occuper des animaux domestiques. Et l'autre partie, et celle qui m'intéressait le plus, c'était celle qui concerne l'attitude de l'employé. Parce qu'on parle beaucoup de la façon de se comporter, de parler. Et donc, tout ça va être un peu codé, finalement. Il y a une manière de répondre, il y a une manière de se déplacer, il y a une manière de ne pas faire trop de bruit, il y a une manière de sourire. Et puis, on parle aussi de tous les abus physiques, verbaux, auxquels ces femmes sont amenées à se confronter, potentiellement. Ça, c'était quelque chose qui m'avait aussi beaucoup frappé.
On parle aussi de comment vous avez conçu votre film. Vous créez au début une certaine confusion, c'est-à-dire qu'on a l'impression que vous filmez une situation réelle et on va s'apercevoir que finalement, ce sont des situations qui sont jouées par les candidates et les formatrices pour préparer ces femmes à leur futur métier.
Oui, en fait, dans l'école, elles vont utiliser l'outil des jeux de rôle pour pouvoir mettre les femmes en situation. Donc, il faut savoir que dans le groupe, il y a toujours des femmes qui sont déjà parties, mais qui sont obligées d'être formées à nouveau, et des femmes qui ne sont jamais parties à l'étranger. Et tous les jeux de rôle qu'on voit dans le film, donc effectivement, au début, on ne sait pas que c'est un jeu de rôle. Donc, c'était fait exprès. Bon, maintenant, tout le monde le sait. Il y a les jeux de rôle. Et ce que je voulais dire par là, c'est que toutes les situations qu'on voit en jeu de rôle est une situation qui a été vécue par une des femmes du groupe. Donc en fait, celle qui était déjà partie ou la formatrice évoquait les situations qu'elle pourrait potentiellement rencontrer et les jeux de rôle voilà, étaient mis en scène par des femmes qui avaient déjà vécu à l'étranger en faisant ce métier et le rejouaient avec son groupe.
Hey Beth!
Yes, ma'am.
Pick up the shoe! Do it!
Et avec une certaine crédibilité.
Oui, c'est ça qui m'avait énormément frappée. La première fois que j'ai vu un jeu de rôle, j'ai été complètement fascinée par le fait que les femmes, mais toutes, arrivaient à se mettre dans la peau d'un employeur, d'une employeuse absolument tyrannique, comme si c'était vrai. Enfin, c'était vraiment fou, en fait. Et ce qui était fou aussi, c'était de voir, donc, parce que bon, il s'agit d'un jeu, elles savent très bien qu'elles sont en train de jouer, de voir de l'autre côté l'employé, celle qui joue l'employé, qui sait bien que c'est pas son employeuse et qui n'est pas actrice, ressentait, enfin, elle montrait sur le visage une émotion qui me semblait atteindre une forme de vérité. En fait, elle se projetait, elle se préparait. De toute façon, quand elles sont en formation, c'est qu'elles vont partir très bientôt. Et elles se projetaient dans cette situation-là. Et forcément, en jouant ce jeu de rôle, elles étaient plongées dans une situation qu'elles, voilà, qu'elles savaient possible. Et c'était assez frappant de lire cette émotion sur le visage des femmes. Et ça m'avait beaucoup rappelé la pièce de théâtre de Jean Genet qui s'appelle Les Bonnes, dans laquelle il y a deux femmes domestiques qui jouent à être l'employeuse tyrannique et l'employé opprimé.
Ça aurait été impossible d'aller tourner au Moyen-Orient les conditions réelles de travail. Donc c'est d'une certaine manière une voix, une forme pour nous décrire un peu ce qui se passe sur le terrain.
Oui, complètement. C'est-à-dire qu'à la fois, ces jeux de rôle me permettaient de sortir du schéma un peu académique du cours en classe, avec des bancs ou autre, et en même temps, me permettaient de déjà montrer ce qui se passe à l'étranger et qu'on ne peut pas montrer, comme vous dites. Et en même temps, de révéler cette espèce de contradiction entre cette formation qui semble, en tout cas, vouloir les préparer et en même temps, qui les prépare psychologiquement à affronter toutes sortes de situations qui sont inacceptables. Je voulais montrer aussi cette contradiction-là.
Mais on voit bien cette émotion à la fin du film, enfin, tout ce qui leur passe par la tête quand on les voit transportées dans l'autocar, là, les visages qui tout d'un coup se referment, qui sont inquiets, anxieux de ce qui va se passer par la suite quand même. Et c'est là où, dans la commission visionnage, on a un des participants à cette commission qui me disait « c'est là où j'ai eu envie de pleurer, en fait, vers ces dernières images de la fin là, de votre film. » Parce qu'on sent tout ce qu'elle porte.
Oui, tout à fait. Elle roule sur l'eau, en fait. Et donc, on voit la route complètement inondée. Et dans la chanson, dont les paroles sont traduites, elles parlent du fait que leurs larmes sont leurs seules armes. Et je trouvais que avec ce motif de l'eau, donc on a vu les inondations en fait pendant tout le film, et à la fin, pour moi, en fait, symboliquement, ça, toute cette eau, ça représentait les larmes en fait de toutes ces femmes, toutes les larmes qui s'échappent de ces femmes, voilà, qui pleurent quand elles sont à l'étranger. Enfin, en tout cas, j'ai recueilli beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens.
J'en profite pour lire la traduction de la chanson. Les gens comme moi ont-ils encore un avenir? Ont-ils encore l'espoir d'un bonheur dans ce monde? Je ne souhaite à personne le même sort que moi. J'ai dû racheter les péchés des autres. Qui est bien heureux? Qui est misérable? Sommes-nous celles qui ont presque donné leur vie à la patrie? Les nouveaux héros, dont les seules armes sont des larmes, nous vous supplions de nous accorder juste un peu de compassion. Qui ça s'adresse? À nous, spectateurs?
J'ai trouvé cette chanson portait la voix des femmes. Les dernières paroles que vous avez citées sur le fait qu'en fait, elles demandent un peu de compassion, je trouvais que c'était voilà, un message fort. Alors, la voix qu'on entend, parce qu'il y a eu tout un travail fait par le compositeur, mais la voix qu'on entend, c'est la voix d'une des femmes qu'on voit dans le film, qui a chanté cette chanson dans un karaoké. Et c'est une chanson qui est très connue aux Philippines, qui est tirée d'un film qui a été fait sur le cas Flor Contemplacion, qui est un cas très connu dans les années 90, parce que c'est une femme de Philippines, employée de maison à Singapour, qui a été condamnée à mort à Singapour pour meurtre. Malgré la demande du président de l'épargner, malgré tout ça, elle a été condamnée avec voilà, des zones d'ombre, parce qu'en fait, il y a une employée de maison qui a été retrouvée morte avec le fils dont elle s'occupait dans une maison à Singapour. On a retrouvé en fait dans le journal de bord de cette femme le nom de Flor Contemplacion, qui a été accusée du meurtre. Or, il y a eu des témoins qui disaient que c'était le père de l'enfant en fait qui, en découvrant que son fils avait été noyé dans la piscine et que la femme n'avait pas pu le sauver, aurait tué la femme. Enfin, ça n'a pas été éclairci. Elle a quand même été condamnée à mort. Donc, ça a été une heure qui a beaucoup marqué le pays et la chanson est tirée. De ça.
On prévient les femmes qu'elles seront inconsidérées, qu'on les surexploitera. On leur dit, ne vous plaignez pas auprès de vos employeurs.
Ah non, il dit, ne vous plaignez pas auprès de la police, elle dit même.
Venez rendre compte à l'agence.
En fait, pendant les repérages, j'ai interviewé beaucoup de femmes, qui ne sont pas dans le film, bien sûr. Et on m'a raconté, en fait, beaucoup d'histoires, là, surtout au Moyen-Orient, où des femmes, en fait, par exemple, ben voilà, sont victimes d'abus, se font violer, par exemple, et se retrouvent au commissariat et où elle se retrouve encore violée au commissariat, vous voyez. Et je pense que ce qu'elle veut dire, c'est qu'il vaut mieux qu'elle s'adresse à l'agence plutôt qu'à la police du pays où elle se retrouve, parce qu'elles n'ont pas voilà, la sécurité d'être protégées par les institutions du pays où elles seront. Après, l'agence, tout dépend de l'agence aussi. Elles ont la possibilité voilà, de signaler un abus, etc. Après, la protection n'est pas suffisante. Et tout dépend aussi de l'agent. Parce qu'en fait, si l'employeur et découvert avoir violé sa nounou ou autre, elle peut être aussi blacklistée. En tout cas, s'il y a trop de problèmes, donc l'agence peut aussi les menacer, mais ça, je pense que ça arrive pas, vraiment pas souvent, mais il y a aussi des ONG qui se mobilisent pour que les femmes puissent être protégées, puisque la protection que peut apporter l'État n'est pas suffisante.
Est-ce que vous avez filmé qu'une seule fois un premier contact, qu'on voit une jeune femme qui, au téléphone, discute avec sa future patronne? Ou si vous en avez filmé plusieurs, pourquoi avoir tenu cet exemple-là?
Pendant le tournage, j'ai assisté à plusieurs entretiens en dehors du tournage, et il y a eu aussi d'autres entretiens pendant le tournage, mais pas avec les femmes qu'on voit dans le film. Enfin, dans le groupe, je veux dire. Plutôt à l'agence de recrutement. Et là, j'ai retenu celui-là parce que déjà, il se passait dans le centre de formation et aussi parce que la teneur des propos échangés avec la future employeuse, c'est un entretien d'embauche, m'a énormément frappée et m'a beaucoup révoltée, en fait. En fait, on entend l'employeuse raconter qu'elle va avoir son premier enfant. Et en fait, il y a une espèce de tension dans l'entretien entre cette employeuse qui veut savoir si déjà employée, elle s'appelle Léa, si elle sait s'occuper d'enfants, bah, elle a elle-même des enfants, donc voilà. Elle veut savoir si elle sera capable de rester autant de temps sans voir ses enfants. Alors, les mots ne sont pas choisis comme ça, mais c'est vraiment ça que ça veut dire. Et puis, elle finit en disant que la priorité, voilà, ce n'est pas le ménage, c'est son fils. Et donc, il faudra qu'elle s'occupe en priorité de son fils. Et c'est très choquant pour moi parce qu'en fait, on sent bien qu'une des peurs de l'employeuse, c'est que son employé n'arrive pas à tenir son emploi parce qu'elle a trop envie de voir son enfant qui est resté au pays. Donc, est-ce qu'elle sera capable de surmonter le mal du pays et le fait d'être loin de ses enfants? Parce que je trouve une question quand même assez particulière. Et puis, quand elle insiste sur le fait que sa priorité, c'est son enfant, pour moi, j'y lis quelque chose, c'est qu'en fait, son enfant n'a pas le même statut que l'enfant de son employé. Et ça, je trouve que c'est particulièrement choquant. Et donc, dans cette interview-là, je trouve qu'il y a vraiment toutes les contradictions et toute la situation dramatique dans laquelle elle se trouve et toute l'espèce de culpabilité cachée aussi de l'employeur à employer une femme qui habite à l'autre bout du monde, en l'occurrence c'est Hong Kong, donc c'est pas si loin, mais importer une citoyenne philippine pour s'occuper de son enfant.
Marie-Françoise, pourquoi avoir sélectionné ce film parmi tant d'autres?
Parce que ça parle des femmes, ça parle des problématiques des femmes, où qu'elles soient, de l'esclavage de certaines femmes, de la violence faite aux femmes, de ces femmes responsables de la survie de leur famille chez elles, etc. Enfin, on sent votre sensibilité de documentariste sur ce versant des femmes. Personnellement, j'aimerais bien suivre ce que vous allez faire dans l'avenir et j'aimerais bien savoir sur quel projet vous travaillez. J'imagine que Oversea a été un projet que vous avez maturé pendant longtemps. Et là, j'aimerais bien savoir sur quoi vous travaillez.
J'en suis au début d'un projet, mais c'est un projet de fiction. Donc, j'en suis vraiment au début, donc je vais peut-être pas beaucoup m'étendre dessus. Mais en tout cas, alors, dans le film, normalement, si tout se passe bien, il y a la présence d'une femme travailleuse domestique aussi, mais sans papier, ici en Europe. Le film ne tourne pas autour d'elle. Entièrement, c'est l'histoire aussi d'une adolescente et d'une rencontre. Disons qu'il y a, en filigrane, il y a la situation aussi des femmes philippines ici que je vais évoquer.
Merci à Sung Ayun, la réalisatrice d'Overseas, film documentaire diffusé via la plateforme Cube dans le cadre du 38e Forum Visage. Et merci à Marie-Françoise Loiseau, membre de la commission Visionnage, pour leur libre participation à ce programme.